Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le réseau social libre et décentralisé Mastodon. Ce sujet est une rediffusion d'une émission du 22 novembre 2022. On se retrouve juste après. Nous allons donc aborder notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur Mastodon, le réseau social libre et décentralisé, qui fait l'actu, avec nos deux invités que je laisserai se présenter après, Cécile Duflo et Benjamin Sontag. Je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon. Libre à vous. Donc, nous allons parler de Mastodon, mais déjà, on va laisser nos invités se présenter. On va commencer par Cécile Duflo.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, je suis Cécile Duflo. Je suis aujourd'hui la directrice générale d'Oxfam France, qui est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et auparavant, j'ai eu un engagement politique puisque j'ai été députée, ministre et secrétaire nationale du Parti écologiste Europe Écologie Les Verts.
Ben, merci Cécile. Oula. Benjamin Sontag.
Bonjour, ben moi je suis Benjamin Sontag, je suis gérant d'une petite entreprise d'hébergement de serveurs sur internet qui s'appelle Octopus, et par ailleurs un cofondateur avec des camarades il y a très longtemps de la Quadrature du Net, une association de défense des libertés à l'ère numérique, et donc dans le cadre de cette émission, plus précisément un des fondateurs d'une instance Mastodon qui s'appelle Mammoth, et plus récemment d'une autre qui s'appelle Piaï, où on va pouvoir découvrir aujourd'hui de quoi il s'agit.
Exactement, on va en parler tout à l'heure. Alors pourquoi ça fait l'actu? Ça fait l'actu parce que notamment il y a un certain rachat qui a été fait par un milliardaire américain Elon Musk de Twitter. Alors peut-être que tout le monde ne suit pas à la fois ce qu'est Twitter et les activités récentes sur Twitter. Donc la première question, mais qui va être assez rapide, je précise tout de suite, parce que le but n'est pas de parler de tous les problèmes posés par Twitter, mais c'était un peu d'expliquer, bon, quels sont les problèmes généraux posés par Twitter? Voilà, globalement, les lister. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, avec le rachat d'Elon Musk, quelque part, ça a entraîné finalement un questionnement encore plus important et donc la création, enfin l'arrivée de personnes sur Mastodon dont on parlera après. Qui veut commencer? Cécile?
Mais si moi je commence, je vais commencer par dire les choses bien de Twitter en fait.
Par dire les choses bien, voilà.
Parce que moi j'ai fait partie des gens qui ont eu un compte Twitter très tôt, en 2008, parce que j'étais entourée par des jeunes qui étaient très attentifs aux nouveaux réseaux sociaux, et au départ j'étais très grognon. Je comprenais pas comment ça marchait, je voyais pas du tout l'intérêt de faire un message en quelques dizaines de caractères, je crois que ça permettait pas de parler de politique, enfin je voyais pas du tout l'intérêt jusqu'au jour où j'ai fait une blague. Et le jour où j'ai fait cette blague, j'ai compris qu'on pouvait, enfin que ça a bien marché, et du coup, ça m'a intéressé et donc j'ai trouvé que c'était des interactions marrantes. Et ensuite, il est arrivé plusieurs choses qui pour moi ont été fondatrices dans ma relation à Twitter. C'est d'abord la révolution en Tunisie, où Twitter a joué un rôle très important, qui était utilisé pour se prévenir de la présence de forces armées les uns les autres, et qui a été aussi, je pense, un des outils assez décisifs au moment où Ben Ali a fui la Tunisie, et où la question de l'accueillir, ou plutôt d'essayer de bloquer son accueil en France, qui aurait, de la part de la vie d'un certain nombre de militants tunisiens, gelé la révolution, a été permis en partie parce que des gens ont identifié qui s'étaient posés, je sais plus, à Malte, je crois. En tout cas, ça nous a permis à un certain nombre de personnes de réagir et de bloquer son arrivée en France. Et puis ensuite, il y a eu MeToo. Et MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. Voilà. Et ça, il faut dire les choses, hein. MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. Et en tant que femme, en tant que féministe, je considère qu'on n'a pas une dette à l'égard de Twitter, mais quand même, c'est un outil fabuleux, c'est un outil d'interaction mondiale, avec aussi plein de défauts. Mais je voulais qu'on sache d'abord pourquoi c'était bien. Ce qui fait qu'on a envie de le remplacer potentiellement, c'est qu'on n'a pas envie de le perdre complètement.
Non, c'est une bonne introduction. Benjamin, est-ce que tu veux compléter sur la partie positive et aussi peut-être sur la partie problématique?
Ouais, moi Twitter, j'ai découvert assez tôt aussi et j'ai tout de suite compris il y avait une grosse différence. Alors nos auditeurs qui utilisent Facebook peut-être aussi, s'il y en a, Facebook, le truc c'est qu'on parle avec des gens qu'on appelle des amis avec des gros guillemets et c'est surtout des gens qu'on connaît plus ou moins, mais c'est une liste de gens précise. Quand on envoie des messages sur Facebook, ça part à une liste de gens, on a une petite idée de qui il s'agit. Et Twitter, il y avait cette espèce de nouveauté que j'ai découvert tout de suite, où je me suis dit, waouh, on a fait ça en fait. L'humanité a fait ça. C'est qu'on parle sur la place publique. Et tout le monde peut venir nous lire. Il y a un moteur de recherche, on peut se retrouver recommandé par d'autres gens, par les retweets, etc. Et tout à coup, en fait, on a cette espèce de plateforme mondiale, monopolistique et privée et capitaliste. Donc ça, c'est un gros bémol qu'il va falloir mettre autour de ça. Mais cette grosse plateforme mondiale où on peut discuter entre nous complètement librement et waouh, ça peut être super parce que tout à coup je me mets à discuter avec des gens genre un avocat connu, un chercheur en informatique à l'autre bout du monde du MIT et qui me répond puis qui est hyper intéressé parce qu'en fait on discute d'un sujet qu'on a en commun, un truc complètement microscopique de niche. Et ça, dès comme ça, il nous en arrivait plein de gens autour de moi qui utilisent Twitter, qui sont prêts avec plein d'interactions avec des gens super. Et ça, c'était super. Et moi, en tant qu'homme, j'ai découvert derrière sur Twitter qu'en fait, toutes les personnes que je connais qui sont présentes comme des femmes sur leur profil ou sur leur prénom sur Twitter se faisaient assez régulièrement harceler et Twitter faisait rien contre ça. Je compte plus le nombre de femmes qui m'ont dit non mais moi mes DM sur Twitter mais même pas en rêve je les ouvre.
DM c'est message direct.
Mes messages privés sur Twitter privé. Même pas en rêve je les ouvre aux inconnus. Sinon direct je reçois des dick pics, des photos de bites, des gens, des messages de harcèlement. Enfin c'est genre c'est une horreur. Et là en tant qu'homme je me dis ah mince, oui c'est vrai il y a ça en fait. Et voilà on découvre que bah Twitter c'est bien mais à la fois ils ont oublié un truc c'est que enfin ils ont fait ça à l'américaine donc en gros c'est très free speech, c'est très il y a pas trop de limites à la liberté d'expression. Sauf que la liberté d'expression, c'est quand on fait comme ça, c'est aussi la liberté d'harceler son voisin ou sa voisine. Et enfin, je connais aucune place publique ou bar où quand il y a un relou, il finit pas par se faire mettre dehors par les autres autour qui disent non mais enfin c'est bon, foulez la paix quoi. Et ben le problème, c'est que Twitter, comme c'était une immense place publique mondiale, pour moi, ils ont très mal géré ces aspects-là.
Les aspects haine.
Les harcèlement. Aspects harcèlement, haine, voilà, persécution de gens sous prétexte que bah ils sont des minorités, qui sont des femmes, qui sont des homosexuels. Ou... Et ça, c'était un vrai problème pour moi. Et clairement, l'arrivée d'Elon Musk a rien amélioré là-dessus, c'est peu dire.
Alors justement, qu'est-ce qui a provoqué en fait l'arrivée d'Elon Musk? Parce que clairement, ça a provoqué quelque chose, hein, parce qu'on l'a vu, on en parlera tout à l'heure sur Mastodon, mais clairement, ça a provoqué quelque chose. Mais qu'est-ce que, au fond, quelle est la crainte des gens par rapport au Twitter tel que les gens le connaissent aujourd'hui? Suite au rachat par Elon Musk. Est-ce que c'est juste le rachat d'Elon par Elon Musk? Est-ce que c'est ses annonces, Cécile Duflo?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'était à la fois une plateforme privée, mais comme il n'y avait pas de propriétaire bien identifié, ça restait un peu flou. Et du coup, on avait le sentiment d'abord que Twitter réagissait sous la pression. C'est vrai qu'il régulait mal le harcèlement, qu'il régulait mal aussi la création de plein de faux comptes. Moi, j'ai vécu tout. Alors, tous ces événements négatifs, le harcèlement, l'astroturfing, c'est-à-dire des fermes de faux comptes qui alimentaient donc un truc où ça devient plus vrai. C'est aussi ça. Il y avait déjà un début de fatigue à l'égard de Twitter parce que c'était moins vrai qu'avant. Ce dont parle Benjamin, les interactions, même si c'était des pseudonymes, et moi, j'ai aucun problème avec le pseudonymat, c'était des vraies personnes derrière. C'était pas une personne qui activait 25 comptes et depuis maintenant j'ai découvert, enfin c'est assez facile à identifier, plusieurs fois j'en ai été victime, alors des fois de façon anecdotique sur des sujets marginaux, mais du coup ça perd complètement sa saveur parce qu'on peut plus suivre les réponses, on n'est plus que émetteur, il y a plus d'interaction et donc ça perd une grande partie de son intérêt. Mais un, il y avait la folie d'Elon Musk et puis son choix, son côté très capricieux et le côté instinctif assez rapide de tout le monde qui a compris avec ses foucades, ses licenciements, que le truc pouvait s'écrouler. Que le truc pouvait disparaître. Et je pense qu'une grande partie, en tout cas, moi je fais partie de cette vague-là, de gens qui se sont dit, bon, ce sera quoi le plan B? Et tant qu'à avoir un plan B, il faut un truc qui existe déjà. Et là, on comprend quand même que la logique libre, elle est quand même beaucoup plus sécure que le fait que ça puisse être privatisé par un mec milliardaire capricieux. Et donc je pense que c'est vraiment cet élément-là qui a fait basculer, outre le fait qu'on se dit évidemment que déjà que la régulation était limitée, avec Elon Musk, on est parti vers le grand n'importe quoi.
D'accord.
Et il y a un élément assez décisif qui est quand même que, Benjamin l'a dit, il y avait aussi la présence d'un certain nombre de personnalités. Quand je dis personnalités, c'est pas forcément des gens connus, mais des gens surspécialistes, des fossiles de tels dinosaures qui de temps en temps racontent des découvertes et que c'est passionnant. Mais pour ça, on a besoin d'identifier que ces gens étaient vraiment les personnes qu'ils disaient être.
D'accord.
D'où cette fameuse authentification par la coche bleue. À partir du moment où ça devenait quelque chose en vente, bah déjà c'était plus du tout la même histoire et ça voulait dire plein on fait la démonstration qu'on pouvait se faire passer pour vous et du coup la valeur même du réseau et du fait de savoir si c'est la bonne ou pas la bonne personne disparaissait.
D'accord. Benjamin là-dessus?
Bah ouais, on s'est retrouvé. Je trouve ça intéressant parce que moi ça fait longtemps que je suis convaincu que Twitter n'est pas la bonne réponse en tant qu'outil numérique pour échanger entre tout le monde. Parce qu'il est privatisé, parce qu'il est c'est une plateforme unique. Donc en biologie, quand il y a un seul truc qui existe sur il se reproduit pas, il meurt. Hein. Pour moi, la vie n'existe que dans la diversité. C'est consubstantiel de ce qu'est la vie. La définition de la vie, c'est la diversité. Et Twitter n'était pas divers. C'était Jack qui avait monté son projet.
Jack Dorsey, c'est ça.
Ouais. Ouais. Et il a mis ses règles et fin du game quoi. Donc non, enfin au bout d'un moment, il faut qu'il y ait de la diversité. Et Mastodon avait, dont on en parle aujourd'hui, c'est un logiciel qui a été donc inventé par un Allemand, Eugène, qui a développé ce truc-là et qui depuis est aidé par d'autres gens. Un logiciel libre. Il est parti de l'idée de dire non, mais il faut un système qui soit décentralisé. Où on puisse avoir plein de petits mastodons et chacun gère ses petites règles, un peu comme si on disait en fait en France vous savez quoi, il y a un bar avec une grande place autour avec plein de tireuses à bière et un seul tenancier. Bah non, en fait il y a plein de bars dans plein de petits villages, il y a plein de places, on peut se déplacer, on peut aller au village d'à côté parce qu'on préfère les mecs et les femmes qu'on y trouve parce que c'est des copains, ou on peut se retrouver ailleurs parce que etc. Et il faut cette diversité. Et donc, moi, j'ai découvert Mastodon. Je me suis dit, waouh, c'est super.
Alors, attends, pour un point de vue historique, oui, donc, Mastodon, c'est en 2016, la création de Mastodon. Toi, de mémoire, t'as dû le découvrir en 2017.
Ouais, voilà. Quand il y a eu une première explosion.
Parce qu'il y a eu une première explosion.
Moi aussi, je me suis créé un compte.
Et Cécile s'était créé un compte. Je m'étais créé un compte. J'avais monté la première instance qui s'appelait mammoth.fr, qu'on avait fait avec la quadrature du net, voilà.
Et, une association de défense des libertés informatiques.
De défense de numérique. Et on se retrouve avec cette instance et il y a une première explosion de gens qui disent, ah ouais, non, mais c'est bien ce truc décentralisé, et qui viennent parce qu'ils comprennent les enjeux. Et donc, finalement, on n'était pas très nombreux quand même. Mondialement, je sais pas, c'est 100, 200, peut-être 300 000 personnes. C'est une goutte d'eau dans l'océan du réseau. Cette année-là, il y a 15 jours, avec le rachat de Musk, c'est Gabji et c'est n'importe quoi à licencier les trois quarts de son équipe, qui fait que la maintenance technique de Twitter n'est plus assurée aujourd'hui. Hein. Faut être très clair.
Ouais, s'il y a un problème, on sait pas si ça va redémarrer.
Non, mais il y a des trucs qui marchent déjà plus. Donc, si on a un système de double mot de passe, comme on peut l'activer si on est un peu sécurisé, ça marche plus. Si on a les gens qui font de la pub sur Twitter, il y en a qui se barrent parce qu'en fait, ils disent nos outils de diffusion de pub ne marchent plus. Ils sont en train de casser le nerf de la guerre financière de Twitter. Donc, c'est en train de partir en quenouille à vitesse grand V. Et en fait, donc, à suite à ça, les gens ont fait comme Cécile, ils se sont dit, ah ben, c'est quoi? Ouais, mais attendez, il faut un plan B. Et moi, j'ai vu ça dans ma communauté, notamment la cybersécurité informatique. Il y a toute une communauté de gens avec qui j'ai discuté sur Twitter. Et on est plein, on se connaît que via Twitter. Et là, en 48 heures, il y a jeudi dernier, je crois, j'ai vu notamment toute la sphère US, donc tard le soir pour nous, dans la nuit, je les voyais tous en train de s'exciter en disant, oui, mais on se retrouve où? Parce qu'en fait, machin, je connais machine, mais machine, il connaît bidule. Et entre nous, hommes et femmes du monde de la cybersécurité, on s'est dit non, mais il faut qu'on se retrouve ailleurs. Parce qu'en fait, si Twitter s'éteint là dans une demi-heure, on ne se retrouve plus. C'est notre seul moyen de communication, mais on est cons. Et ils ont monté leur propre. Il y a eu une instance, donc une version de Mastodon qui a été déployée par des Américains qui s'appelle IOC.exchange. C'est tous les gens de la cybersécurité qui se sont retrouvés dessus. Et c'est super, c'est que moi, avec mon compte sur Mammoth, je pouvais leur parler.
Alors justement, on va expliquer ça.
Voilà.
Parce que,
ouais. Et donc voilà, c'est toute cette communauté de gens se retrouver. Du jour au lendemain, on a monté notre plan B, chacun dans son petit coin, on arrive à se parler entre nous, vous savez quoi, c'est super, on peut se passer de Twitter maintenant. Et donc la nouvelle phase de on quitte tous Twitter, où on parallélise en ayant un plan B qui est ouvert et qui est super, là elle est beaucoup plus grosse. Et là, depuis 15 jours, ça explose un peu. Quoi.
Après, moi, je peux dire pourquoi je suis pas restée sur Mastodon. Moi, pourquoi je suis allée sur...
En 2017,
j'ai créé mon compte. Je crois que c'est Benjamin qui m'en avait parlé. Et sauf que, en fait, d'abord, je comprenais pas. Il y avait pas d'appli. Moi, je fais partie des gens qui sont politiquement très convaincus du libre, très ouverte à la question. Mais je parle pas couramment le Python ou le tout ça.
Python, c'est un langage de programmation.
Voilà, c'est ça. J'ai programmé un ordinateur quand j'avais 12 ans. C'était un TO-7 et ça a jamais été mon truc. Et je conçois qu'il y a plein de gens que face à un écran noir, ils mettent des deux points, des mots et tout ça et ils parlent à l'ordinateur. Moi, je fais pas du tout partie de ces gens-là. Et en plus, je sais que plein de gens n'osent pas le dire. Mais quand c'est pas assez simple et qu'ils y arrivent pas, ils osent pas demander parce qu'il y a un côté un peu snob. Et je le dis, hein, j'aime les libristes d'amour et pour toujours parce que je pense vraiment que c'est ultra stratégique de connaître ce monde-là dans le monde dans lequel on vit. Mais parfois, ils se rendent pas compte que ils parlent un langage qui est un langage évident pour eux. Et je le dis parce que ma petite sœur, on est grandi dans la même famille, elle est très différente de moi. C'est pas un langage qui est compréhensible par beaucoup de gens. Donc il faut que ce soit facile d'accès. Donc moi, mon combat à moi, c'est qu'on puisse à la fois dire c'est libre, mais c'est facile d'accès. Et donc Mastodon à l'époque, c'était compliqué. Je comprenais pas le truc des instances. En fait, on peut l'expliquer beaucoup plus simplement à plein de gens, hein, cette histoire d'instances.
Bah, tu l'expliqueras après, justement.
Je vais revenir. Ouais. Mais surtout, en fait, il y avait que des geeks qui parlaient de trucs de geeks avec la moitié des mots qui étaient du français, mais que je comprenais pas. Donc, bah, au bout d'un très rapidement, je me suis sentie pas à ma place, en fait. Juste pas à ma place. Et donc, je suis repartie sur la pointe des pieds. Du coup, mon compte était sur j'ai même pas quelle instance et bref, il a disparu. Et là, ce qui s'est passé, c'est deux choses. Un, d'abord, il y a eu cette idée de, bah oui, je veux pas qu'on m'enlève cet outil. Les gens que je lis, c'est pour moi une fenêtre ouverte sur le monde. J'ai une TL, comme on dit, c'est-à-dire la liste des gens que je suis, ultra diversifiée. J'apprends plein de choses. Chaque jour qui passe, Twitter, c'est un peu comme une bibliothèque. C'est vrai que les gens disent on est sur Twitter, mais des fois quand je m'ennuie, j'y vais. Et puis du coup, je clique sur un article que quelqu'un a envoyé, auquel j'aurais pas du tout pensé dans un magazine que je connais pas ou un site que je connais pas, et j'apprends plein de choses. Et donc je me suis dit mince, je veux pas qu'on m'enlève ça. Et donc j'ai dit bon, je vais y retourner, je vais voir. Et en fait, en même temps qu'il y a eu cette volonté d'y aller, le travail avait continué et il y a un certain nombre de développeurs qui ont simplifié les choses et notamment créé des applis sur les téléphones portables qui sont en tout cas pour celles que j'ai sur mon iPhone de base aussi intuitives, simples et avec presque toutes les mêmes fonctionnalités que Twitter. Donc c'est ultra facile de changer, avec une chose différente, c'est qu'effectivement il y a une liste avec tous les gens qui sont abonnés à l'instance à laquelle je suis abonné. Donc juste une instance, en fait, c'est la porte par laquelle vous rentrez dans le grand château. Mais ce qu'il faut dire, Benjamin, c'est que les gens ont l'impression que si tu t'abonnes à une instance, tu vas rester dans ce cercle-là. Pas du tout. En fait, c'est ta porte pour rentrer et ensuite c'est comme Twitter. Mais du coup, je peux lire une liste en français de gens que je connais pas et que du coup je peux aussi découvrir, puisque c'est une instance francophone.
Alors je précise que aux personnes qui sont sur le salon web, que tout à l'heure on donnera les noms des clients, c'est prévu dans la deuxième partie de l'émission, on va évidemment donner les informations. Là on va essayer d'expliquer, même si Cécile a commencé à le faire, ce qu'est Mastodon. Alors la partie la plus simple sans doute, c'est que c'est un logiciel libre. Peut-être Benjamin, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un logiciel libre?
Bon, un logiciel libre, c'est un logiciel dont on a la recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on peut voir comment il a été fabriqué. Mais non seulement on a la liberté de voir comment il a été fabriqué, mais de prendre la recette de cuisine, la modifier et redistribuer des versions modifiées. Donc, et c'est tout librement, sans être obligé de forcément donner une licence régulière au grand monopole américain en face. Donc ça a plein d'avantages, parce que ça permet, certes, surtout aux geeks et aux informaticiens, mais ça permet à tous ces gens-là, qui sont quand même très nombreux, d'échanger des recettes de cuisine, d'améliorer leurs recettes de cuisine et de construire ensemble, plutôt que de se construire les uns contre les autres, ce que font la plupart des autres humains quand ils font du logiciel non libre, dit propriétaire. Donc ça a quand même des super avantages. Donc en effet, Mastodon, c'est un logiciel libre. Donc ce qui est super, c'est que d'entrée de jeu, ça a permis à plein de gens de venir aider à contribuer. Donc Mastodon, quand c'est sorti, quelques mois après, il était traduit en 45 langues. Mais genre comme ça, quoi. C'est super. Enfin, genre, il y a un côté, c'est magique. Et ça a rien coûté à l'auteur du logiciel, parce qu'en fait, il y a juste un mec au Pakistan qui a dit non, mais moi, j'ai envie que ce soit disponible en farsi. En Iran, il est disponible en farsi, en Pakistanais, je sais plus comment on dit, en ourdou, je crois. Et il est disponible dans toutes ces langues-là. Il y a des Bretons qui l'ont traduit en breton. Enfin, c'est super. Et il y a plein de geeks qui ont pu contribuer à améliorer le logiciel, le rendre plus facile, plus ergonomique. Et finalement, il y a eu des applis pour Android, pour iPhone, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est super. Donc ça permet cette espèce de vibrionnance d'écosystème complètement fou, où tout se déploie vraiment de manière assez fantastique et libre. Donc ce qui fait que nous, on peut prendre Mastodon, faire une petite modification, et puis on doit rien à personne, en fait. Donc typiquement, là, on reparlera de PI tout à l'heure. On a choisi une PI, c'est l'instance qu'on a montée avec Thibaut. On a choisi qu'il y ait un côté visuel qui soit autour des oiseaux. Bah, le petit poutou, quand il y a un nouveau message, c'est un cuicui, quoi. Et puis on n'a rien demandé à personne pour changer les fonctions de l'appli, vous voyez. Et le logo, et la tête que ça, etc.
Ok, donc ça c'est très clair sur la partie libre. La partie qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre pour les gens qui viennent de Twitter, ou les gens même qui découvrent Mastodon sans être passés sur Twitter, c'est que bon, Twitter, comme le disait tout à l'heure Cécile, il y a une seule porte d'entrée qui est twitter.com, qui est gérée donc effectivement par une entreprise. Mastodon, il y a cette notion d'instance ou de serveur. Alors peut-être qu'on va commencer par Cécile, qui a commencé un petit peu à expliquer ce que c'était les instances serveurs, mais... Toi, comment tu l'expliques aux gens de ton entourage, en fait?
Alors, j'explique en disant justement que Mastodon et Twitter, c'est un gros château dans lequel il y a tout le monde qui peut rentrer. La différence, c'est que Twitter, il y a une seule porte, et c'est celui qui possède la porte qui tient la clé, donc il peut décider qui rentre et qui rentre pas, et il peut aussi décider de fermer la porte et que plus personne rentre. En l'occurrence, c'est Elon Musk. Le château Mastodon, la différence, c'est qu'il y a plein de portes. Et donc, faut choisir la porte par laquelle on rentre. Ça fait deux choses, une fois qu'on a choisi cette porte, c'est que notre porte à nous, elle peut choisir qu'elle veut pas que d'autres portes viennent. Typiquement, s'il y a une porte qui est un serveur de gens de l'extrême droite, etc., elle peut dire, ceux-là, en fait, ils viennent pas, on peut pas les voir quand on vient de notre porte. Donc, on peut être protégé de ça. Et puis, ça crée aussi un lieu où, dans le porche de la porte, en fait, tu peux lire tous les gens qui passent par ta porte. Mais une fois que t'es dedans, ça change strictement rien. Et du coup, ça veut dire aussi que y a personne qui peut décider de fermer ta porte. Mais tu peux être aussi protégé de gens qui arrivent par des portes différentes. Et tu peux choisir si tu veux être dans une porte où, en fait, c'est que des spécialistes de la tech qui viennent, et que du coup, dans le porche, t'entends des discussions autour de la tech, une porte qui parle français, une porte qui parle breton, et voilà. Donc c'est ça qui est particulier à comprendre, c'est qu'il faut choisir simplement la porte par laquelle on rentre. Ensuite, sur les fonctionnalités, on fait des messages un peu plus longs que sur Twitter.
C'est 500 caractères.
Voilà. On peut les je vais parler en langage Twitter, on peut les retweeter, on peut
partager, quoi.
On peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, enfin ça ressemble vraiment beaucoup. Une fois qu'on est rentré dedans, ça ressemble vraiment beaucoup. La seule chose qui est différente, c'est qu'on peut pas reposter le message de quelqu'un.
On en parlera après de ça.
D'accord, ok.
Parce que c'est intéressant sur certains choix technologiques qui ont été faits. On en reparlera juste après. Moi, je vais finir sur la partie serveur.
Moi, il y a un parallèle que j'aime bien faire pour les gens qui connaissent pas Twitter, en fait. Puis même ceux qui connaissent Twitter, ils vont découvrir un truc. C'est en fait, Mastodon, je le compare plutôt, moi, au mail. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon mail, c'est benjamin@suntech.fr. Et puis bah si une amie qui s'appelle manon@gmail.com elle a envie de m'écrire, bah elle peut m'écrire. Et on a tous compris que c'était des instances différentes parce que après le arrobas c'est pas pareil en fait. Elle est chez Gmail, moi je suis chez Suntag. Et puis j'écris aussi avec Astrid sur Yahoo, j'écris aussi avec Philippe sur free.fr, j'écris aussi à Jérémy sur Tofs. Et en fait, on s'est créé entre nous et en fait, on s'est jamais posé la question.
Ouais, mais là, c'est là.
Alors, il y a une différence. La seule différence avec Mastodon, c'est qu'en fait, Mastodon, c'est comme si on avait un mail, mais par défaut, quand on poste un message, c'est juste un message posté à tout le monde,
voilà,
en fait.
C'est ça.
C'est public. Par
donc
défaut.
C'est
voilà.
Le mail avec en plus le fait que quand on se pose pas de questions, en fait, le message qu'on envoie, il est envoyé à tout le monde. Et c'est super parce que ça veut dire qu'on peut s'envoyer des messages entre nous, s'envoyer des messages à destination d'organisations, de groupes d'utilisateurs, de listes de personnes, des gens qui nous suivent ou que les gens que ces trois personnes-là et qui on veut parler. Avec des messages privés, mais si on ne met personne, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde reçoit nos messages. Et après, ça veut dire que derrière, en tant qu'humanité, il faut qu'on apprenne ce que ça veut dire que d'envoyer des messages à tout le monde. Et là, c'est un grand pouvoir, mais c'est aussi une grande responsabilité.
Voilà, ça, on va en parler justement un petit peu après, parce que on va continuer à défiler à partir pour monter vite. Alors, j'explique juste, comme vous voyez pas sur l'écran, que sur le salon web, on vous félicite pour vos comparaisons et notamment sur ça du courriel, etc. Donc, ce que tu disais, oui, sur Cécile, on va continuer un petit peu sur la partie technique. Bon, au niveau des messages, effectivement. On peut poster des messages de 500 caractères maximum, on peut mettre des images, etc. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, avant de parler de la partie de ce qui n'est pas possible, peut-être expliquer ces deux d'un point de vue graphique. On a les messages qui sont envoyés par les personnes abonnées sans algorithme. Ça, c'est peut-être important, peut-être à expliquer.
Alors ça, je suis pas d'accord parce que tout le monde croit que Twitter c'est qu'un algorithme. Moi, depuis toujours.
Oui, il faut appuyer sur le.
Il faut appuyer sur voir les derniers tweets et on peut avoir Twitter sans algorithme, ce qui n'est pas possible pour Facebook. Je suis pas une spécialiste, mais j'ai compris ça. Alors que pour Twitter, si on a Twitter avec les derniers messages, ce que j'ai toujours choisi, parce que c'est chiant, en fait, qu'ils choisissent pour toi, bah, en fait, c'est exactement comme Mastodon.
Alors, on va juste préciser, effectivement, que par défaut, sur Twitter, il y a l'algorithme, et sinon, en appuyant, je sais plus sur quel.
Voir les derniers tweets.
On peut avoir, effectivement, la frise chronologique.
Exactement.
Donc, Mastodon, c'est par défaut, mais surtout, ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est qu'il y a deux fils différents, qui est le fil de l'instance locale, et le fil de l'instance, le fil global. Est-ce que
Il y en a trois. Il y a le fil.
Et il y a les notifications aussi.
Il y a le fil par défaut. Les gens dont on souhaite voir les messages de manière active.
On s'est inscrit.
Alors compte,
c'est les gens qu'on suit.
Les gens qu'on suit. Lui, elle et lui.
En Twitter langage, c'est la TL.
C'est la TL.
La frise chronologique.
C'est les gens auxquels je suis abonné. Donc ceux-là, je veux savoir leur message. Ça, c'est la première. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est les gens que j'ai découvert. Je me suis dit, ok, lui, je veux la suivre. Elle, je veux la suivre. Et je vois
parce que tu
messages.
Les as choisis et
parce
c'est
que
pas
je les choisis.
Tu les affiches
c'est pas un algorithme et je vois les derniers messages d'abord. Ensuite, il y a les messages de notification, c'est les gens qui me répondent ou qui retweetent mes tweets ou qui repoètent mes poètes et qui les reforward et qui les retransmettent à d'autres gens. Donc ça c'est les notifications. Il y a ensuite là ce qu'on appelle la timeline locale. Donc voilà, les messages locaux. En gros, c'est tous les messages postés par tous les usagers, postés en public par tous les utilisateurs et utilisatrices de l'instance sur laquelle je suis. Donc c'est là où le choix de la porte d'entrée est un peu important, parce que si on a envie d'aller voir, si on est dans une communauté qui a une couleur particulière, politique, technique, industrielle, artisanale, j'en sais rien, gamer, j'en sais rien, peu importe, ben les messages de la timeline locale, ils vont être très dans cette couleur. Et en effet, la première expérience de Cécile à l'époque, c'était très des geeks, donc c'était un peu bizarre. Et la timeline fédérée, là c'est encore, c'est World Company, là c'est le monde entier, c'est tous les messages postés publiquement par tous les usagers,
de toutes les instances.
De l'instance locale et qui ont des abonnés sur les autres instances qu'on voit, quoi.
Voilà.
Et donc, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus verbeux, beaucoup plus bavard, beaucoup plus versatile. Et là, on peut voir un peu tout et n'importe quoi. Et
bien, je viens de recevoir, parce que du coup, je regarde le message d'un Suisse sur Mastodon qui dit, en fait, pour un Suisse, c'est très simple, c'est comme la Suisse. Donc, en fait, il y a les messages que t'envoient les gens auxquels tu t'es abonné. Ensuite, il y a les messages de ton canton. Et ensuite, il y a les messages de toute la Suisse. Et c'est vrai que nous, on n'a pas du tout, on n'est pas dans un pays qui a la culture de la fédération, mais je pense que pour les gens qui ont une culture de fédération, c'est très simple d'être partie de deux choses. Et moi, je trouve ça super, en fait, le côté instance, c'est que la liste, en l'occurrence PIAI, puisque mon compte est sur PIAI, elle est en plus francophone, donc elle est facile à lire, parce qu'il manque l'option traduction automatique. Ça, vraiment, ça a changé la vie sur Twitter, parce que moi, je suis des gens coréens et japonais, ça, c'est pas possible de les traduire, sinon. Et donc, bah comme ça, tu découvres des nouvelles personnes. Je voudrais juste dire que pour plein de gens qui arrivent sur Mastodon, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent « mais je connais personne ». Alors, pour info, quand on arrivait sur Twitter, on connaissait personne. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelait les « follow Friday », où en fait, tous les vendredis, les gens envoyaient des messages avec la liste des gens qu'ils connaissaient pour dire « vous pouvez les suivre, ils sont intéressants pour ci et pour ça ». Et du coup, moi maintenant, comme ça fait un moment que je suis arrivée sur Mastodon, enfin un moment, c'est une semaine, hein, ou 10 jours, c'est ça ?
Une dizaine de jours, ouais.
Ouais. Mais que du coup, je suis devenue une sorte de boussole pour un certain nombre de gens. C'est assez rigolo d'ailleurs comme statut. Et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils vont regarder les gens que je suis ou les gens qui me suivent pour retrouver les gens qui suivaient sur Twitter. Donc ça fait une sorte de boîte. Et donc c'est aussi un des moyens. Donc moi ça me fait marrer. C'est exactement ce qu'on faisait au début de Twitter. Donc ça ressemble quand même beaucoup. Sauf que c'est plus durable. Ça dépend pas d'Elon Musk. Et surtout, le but n'est pas de gagner de l'argent. Donc de faire de la pub. C'est ça aussi l'élément ultra chouette du libre. C'est qu'on se dit, tranquillement, on va rester à faire de la conversation. On va pas se retrouver otage de pub, du fait qu'on va utiliser nos données ou qu'on va regarder les tweets qu'on a likés ou pas pour nous envoyer telle ou telle pub. C'est aussi ça qui change tout. Et ça, c'est la grande différence entre le libre, et je le redis, et c'est pour ça que je suis très reconnaissante, c'est que ça marche parce qu'il y a des gens qui font ça bénévolement, juste parce qu'ils aiment bien. Et heureusement qu'ils existent. Et c'est très bien.
Après, il y a plein de modèles économiques différents. Il y a des instances qui font appel aux dons pour payer le matos. Il y a des instances qui disent, nous, c'est parce que, PI, typiquement, l'instance que Thibaut a montée il y a 15 jours, c'est mon entreprise. On a dit, c'est quoi? On te file du matos, gratos, pour l'instant. On verra plus tard. Parce qu'il y avait une urgence d'accueillir les tweetos perdus. Et on s'est dit, on ouvre une instance gratuitement. C'est mon entreprise qui offre le matériel, pro bono. Et puis, l'administration technique et puis la modération, on fait ça avec des bénévoles et des gens autour de nous. Et puis, on verra. Ah, voyez. Et puis ça tombe, dans 15 jours, ça sera organisé en association un peu stricte, avec une gouvernance, etc. Chacun fait un peu son modèle. Il y a des entreprises qui mettent à disposition des instances mastodontes pour d'autres professionnels pour qu'ils discutent entre eux, etc.
En fait, le modèle auquel ça m'a fait penser, c'est un peu comme Wikipédia, en fait. Parce que moi, je me souviens, au début de Wikipédia, on disait « ce truc, ça peut pas marcher ». Ça peut pas reposer sur tout le monde, forcément les gens vont bidouiller, etc. Mais quand on atteint une sorte de masse critique, finalement, moi je le sais parce que j'ai une page qui a souvent été attaquée, entre guillemets. En fait, il y a des sortes de patrouilleurs, tu sais pas d'où ils sont, et ça reste pas plus de 45 secondes. Il y a des mecs, leur truc dans la vie, c'est de guetter les modifications, etc., etc. Et à la fin, oui, Wikipédia, j'ai aussi, moi, du coup, au bout d'un moment, donné des sous parce que je suis contente que ça existe, que je trouve ça bien, et qu'on peut aussi se dire, et par exemple, moi, ça me gênerait pas de plus tard, de autant jamais de la vie, je paierais 8 € pour gagner. Garder ma coche bleue, autant je sais que ça coûte de l'argent d'héberger des données et que donc s'il faut contribuer à ce que mes données de mon instance soient stockées, ça me choquera pas de payer de façon volontaire, mais en sachant que c'est pas fait pour que ça rapporte de l'argent à qui que ce soit. Ça c'est pas un modèle commercial, et donc il faut néanmoins, je trouve ça important, que ça reste ultra accessible. Si on veut que ça prenne le pas sur Twitter, il faut non seulement que ce soit mieux sur un plan éthique et d'esprit, mais il faut aussi que ce soit aussi fastoche à utiliser. C'est ça qu'il faut réussir.
Écoutez, on va faire une petite pause musicale courte. Nous allons écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans 1 minute 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Il y a un Dracula dans le beau salon.
Cause Commune, 93.1.
Il y a une sorcière qui tricote derrière. Il y a un squelette qui met mes baskets. Il y a un fantôme dans la maison. Il y a Dracula dans le beau salon. Une araignée qui lit mes BD. Il y a un gros rat qui rigole de moi. Un loup-garou qui veut des bisous. Il y a un fantôme dans la maison. Dracula dans le beau salon. Une chauve-souris cuit des spaghettis. Y'a un serpent qui se brosse les dents. Et un chat noir avec une guitare. Y'a un fantôme dans la maison. Y'a Dracula dans le beau salon. Y'a un zombie qui mange mes biscuits. Y'a une sorcière qui tricote derrière. Y'a un squelette qui met des baskets. Y'a un fantôme dans la maison. Y'a Dracula dans le beau salon. Y'a un zombie qui mange des biscuits. Y'a une sorcière qui tricote derrière. Y'a un squelette qui met des baskets.
Alors, nous venons d'écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre sujet principal. Donc, nous parlons de Mastodon, réseau social libre et décentralisé avec nos invités Benjamin Sontag et Cécile Duflo. Donc, juste avant la pause musicale, on parlait des instances et notamment du modèle économique, les différents modèles économiques des instances. On peut même préciser qu'il peut y avoir des instances mono personnelles. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai ma propre instance que je gère. Et alors, avant d'entamer la question du sujet de la modération qui est intéressant. Tout à l'heure, Cécile, tu parlais de la certification de compte sur Twitter. Un usage potentiel d'instance, c'est pour une structure de se créer, de gérer sa propre instance et donc d'avoir automatiquement, enfin, de certifier les comptes des personnes qui travaillent sur son instance. Je sais qu'Oxfam a choisi de créer un compte sur une instance, mais typiquement, une structure comme Oxfam ou un média de presse, par exemple, pourrait se créer sa propre instance, gérée éventuellement par un prestataire et donc avoir les personnes qui travaillent dessus sur cette instance-là.
Ah oui, d'ailleurs, enfin, nous, on s'est créé un compte un peu pour découvrir, parce qu'on n'est pas beaucoup, on est très peu d'ONG, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que toutes les ONG sont très présentes sur l'ensemble des réseaux sociaux, y compris parfois en payant, parce que c'est ça qui est accessible en termes de publicité. Pourquoi les ONG payent plus de Google Ads et de trucs sur Facebook, c'est que c'est moins cher que toutes les autres types de publicité. Donc il faut se dire la vérité, mais ça veut pas dire que ça nous pose pas question. Donc là on essaye un peu, on tâtonne. Je pense que oui, parce que l'avantage de Mastodon, c'est que finalement cette adresse, en fait vous avez deux A. À votre nom, hashtag, enfin, @ votre nom et @ le nom de l'instance. Et donc, si l'instance, elle est très officielle, par exemple, on peut imaginer France Média, et là, c'est que les journaux qui ont, ou que les journalistes qui ont un numéro de carte de presse, bah, on sait que si le nom de quelqu'un, c'est que c'est sûr que c'est lui, par exemple. Et moi, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai changé d'instance, c'est que j'ai été sur, j'y suis allée, comme ça, et j'ai atterri sur une instance québécoise où il y avait 60 personnes, au hasard. Et donc, évidemment, après, j'ai déménagé, chez Piaille, et je sais que personne va s'appeler Cécile Duflo à Piaille, et que donc, on peut pas me voler mon nom parce que je fais confiance à l'administration, et à la politique de l'instance. Mais je pense que ce sera une question que vont se poser petit à petit les organisations. Si ça marche.
Parce que
pour l'instant, c'est encore un truc de pionnier.
Ça sera d'ailleurs le dernier sujet.
Un autre truc aussi sur la certification.
Non, juste, je te précise juste un truc parce qu'il le rappelle sur le salon web, mais c'est intéressant. Comme tu le dis, en fait, Cécile, on peut se créer un compte sur une instance, mais ensuite on peut migrer sur une autre instance. Si on trouve que finalement on s'est trompé d'instance, c'est vrai que quand toi tu es arrivé sur Mastodon, j'ai vu un message, on me dit Cécile Duflo est sur Mastodon, je vois l'instance, je me dis mais t'es sûr que c'est la bonne? Et donc voilà, on peut migrer d'instance. Voilà, on n'est pas fermé sur une instance.
Et quand on déménage, parce que du coup je l'ai fait, c'est pas très compliqué, mais vous déménagez avec tous les gens qui vous suivent, c'est-à-dire que vous emmenez tous les gens qui vous suivent, mais pas les gens que vous suivez et pas vos tweets. Enfin, vos messages. Donc peut-être que si les gens qui travaillent peuvent améliorer le déménagement en emmenant aussi la liste des gens qu'on suit.
Ouais, la liste des gens qu'on suit, ce serait la moindre des choses. Ça, j'ai été étonné.
Il n'y a pas de notion d'export de ça?
Si, alors le truc, c'est qu'il faut l'exporter à la main. La liste des gens qui vous suivent, elle suit toute seule, en fait.
Ah, c'est marrant. D'accord.
Juste donner au nouveau compte le nom de l'ancien le nom du nouveau, et pouf, c'est magique.
Si vous pouvez aussi déménager les messages, ce serait vachement mieux.
Les messages, c'est une autre histoire, parce que on parle de temporalité, passé, présent, futur. Mais au moins les gens qu'on suit, moi ça m'a paru genre bon non, c'est pénible, faut le faire à la main. L'ordinateur c'est fait pour pas faire à la main des trucs qu'on pourrait ne pas faire à la main.
Tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, la certification. Alors, il y a des gens qui sont amusés avec une petite coche verte, qui est juste un emoji coche verte ou coche bleue à la fin de leur login. Donc, Cécile, on s'est amusé à ça, moi aussi. Enfin, bon, on peut l'enlever. C'est pas la question. Ça veut rien dire. C'est juste un emoji qu'on met à la fin de son nom. Donc, faut pas croire si on voit un emoji sapin de Noël à la fin du nom que c'est le Père Noël, hein. Ça marche pas. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Si vous avez un site web, que vous êtes une organisation, genre une entreprise, ou un particulier qui a un blog, vous pouvez, en faisant une petite modification sur le code de la page web de votre site, dire quel est votre compte sur Mastodon. Et ça fait un truc, c'est que quand on voit votre profil sur Mastodon, il y a le nom du site web et il y a une coche verte à côté et il y a que les gens qui ont pu officiellement modifier le site web qui peuvent le montrer.
Tout à fait.
C'est pour ça que c'est pas à la portée de n'importe qui.
C'est pas à la portée de n'importe qui, mais dès que vous avez une organisation de type une petite boutique en ligne, une PME, un artisan du coin, il peut demander s'il a un site web à son webmaster ou à quelqu'un qui s'y connaît de faire cette petite opération technique qui permet de faire un réseau de confiance sans être obligé même de dépendre de l'instance. Et ça, c'est super. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être sur l'instance lesartisansducoin.fr avec des gens qui valident que vous êtes des artisans pour pouvoir dire c'est moi l'artisan qui fait du soufflage sur, c'est moi la souffleuse sur verre que tout le monde connaît qui a tel site, c'est bien mon compte Mastodon. Et l'air
après,
de rien.
Après, je devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais Moi qui peux être confrontée à ça, je suis moyen convaincue parce que il y a quelqu'un qui crée un compte Cécile Duflo, qui crée un site internet www.cécileduflo.eu par exemple, ou je sais pas quoi. Il est rempli comme si c'était le mien et puis ensuite il certifie. Enfin voilà.
C'est... Alors ça ça rejoint ce qu'on dit tout le temps sur les enjeux du numérique. Dans le numérique, il se passe la même chose que dans la vraie vie. Il y a des gens qui peuvent se faire passer pour toi à divers endroits. Au bout d'un moment, c'est le droit qui rentre en branle, quoi. Ou les hébergeurs qui ont dit non mais vous êtes gentil, vous hébergez un truc qui est manifestement une usurpation d'identité. Vous êtes, c'est manifestement illégal. Si vous n'êtes pas au courant, faites quelque chose, quoi. Et là, après, il y a des enjeux
c'est
qui sont
moi,
plus ou moins forts et plus ou moins.
La clé, c'est les humains. C'est-à-dire que ça marche s'il y a des humains derrière. C'est-à-dire que bah on a un mail à qui on peut écrire à Piaille en disant là il y a quelqu'un qui vient de faire un compte mais c'est pas moi.
Alors justement, on va parler de la modération juste après, mais j'ai une petite question Cécile, justement, toi tu viens toi tu es une femme militante ex-responsable politique, donc tu coches beaucoup de cases pour subir de la haine, des harcèlements, tu viens d'arriver sur Mastodon, ces premiers pas, donc ça fait une dizaine de jours, quinzaine de jours, comment ça se passe? Comment il accueille en fait?
Alors c'était marrant, au début les gens ils doutaient, enfin ils croyaient pas que c'était vrai. Donc il y avait plein de gens qui en gros me posaient des questions. Ensuite c'était, on va dire globalement plutôt amical, mais quand même un peu donneur de leçons, tu devrais pas faire comme ci ou comme ça. Ou en fait tu sais quoi, c'est pas l'esprit de mettre la coche bleue, alors que moi je le fais parce que je sais que les gens qui vont arriver, ils vont se dire c'est lequel le vrai compte de Cécile Duflo, et que c'est ça le code pour des gens qui sont complètement néophytes. Je m'en fous complètement de... Moi j'ai eu ce truc bleu là sans jamais l'avoir demandé, parce que ça fait très 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 longtemps que j'étais sur Twitter. Il y a eu globalement des gens sympas, j'ai senti quand même, mais là je crois que c'est un peu dépassé le côté ah on était entre nous, là en gros s'il y a genre Duflo qui a ça va être tout de suite le bordel. Et on sait pas qu'on t'aime pas, mais tu vois, ça, c'est le signe que c'est plus chez nous, quoi. Il y avait un peu de ça. Mais c'était plutôt globalement sympathique. Et par ailleurs, moi, j'aime bien les pionniers. Je suis aussi une écologiste depuis 20 ans. Et je trouve ça super chouette qu'il y ait des purs écologistes qui étaient déjà écologistes il y a 20 ans, mais ça suffit pas pour faire changer les choses. Donc, quand on fait un truc bien, c'est mieux si tout le monde s'en empare. Et je considère que ça fait partie de ma mission, justement, de parler un peu les deux langues, de pouvoir dire, faites en sorte quand même, parce que c'était compliqué au début, expliquez les choses simplement, faites en sorte que ce soit accessible. Et je vois encore plein de gens sur Twitter qui résistent, qui ont pas envie. Et moi, par exemple, il y a aussi des gens qui m'ont dit, ah bah maintenant que t'es là, faut que tu te barres de Twitter. Et en fait, non. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent Twitter, genre, une fois toutes les trois semaines. Ils sont pas forcément encore au courant. Enfin, il faut gérer les deux choses. Mais du coup, j'ai trouvé un gros plaisir, c'est que j'écris des choses sur Mastodon que je n'écrirai plus sur Twitter. Parce que le climat est pas du tout le même.
Est-ce que t'as un exemple?
Du genre, j'ai écrit des trucs politiques que je n'écris plus sur Twitter parce que c'est trop public et que ça deviendrait un article, parce qu'il y a des espèces de pigistes qui font une sorte de, pardon, il y a des pigistes qui font une sorte de veille et je fais un pauvre tweet et ça fait une rêve sur Gala, genre. D'accord. Donc bon, c'est chiant. Et donc, du coup, je me sens plus libre et puis parce que, pour le coup, il y a possibilité d'avoir un peu de dialogue. Et ça, c'est intéressant. Ça m'a beaucoup manqué sur Twitter. Et je veux juste dire, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, qu'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur Mastodon. C'est ce qu'on appelle le RT, en citant le tweet, en disant, on le fait pas pour éviter le harcèlement. Et donc, je veux dire aux gens qui ont décidé ça que c'est pas du tout vrai. Moi, je me suis jamais fait harceler par des RT. Je me suis fait harceler juste par des réponses à des messages. Et le seul truc qui est capable de le bloquer, c'est justement le fait de fermer les réponses. Parce que c'est les réponses qui harcèlent et que ça, c'est tout à fait ouvert sur Mastodon. Je pense qu'il y a une erreur, là, pour le coup, d'appréciation de ce que ça signifie.
D'accord. Alors justement, ça
c'est un enjeu. Ouais, c'est un enjeu qui.
La modération.
Qu'on gère. Il y a la modération, mais il y a surtout le fait que Eugène, qui a développé Mastodon à l'époque, il a été un peu tout seul. Aujourd'hui, il est à la tête d'une instance qui a 1 million d'utilisateurs. Je ne sais plus combien ils sont, 100 000, 200 000. Il y a des vraies responsabilités qui arrivent. Et en fait, il est encore un peu tout seul. Je crois qu'ils sont deux ou trois à gérer ça de manière un peu collégiale. Pour moi, ça pose des vrais problèmes. C'est là où le logiciel libre peut peut-être nous aider, parce qu'on peut peut-être faire des forks, ce qu'on appelle, ou des versions différentes de Mastodon. Et d'ailleurs, il y a déjà des logiciels différents de Mastodon qui ont des noms différents, qui mettent en œuvre le même protocole qui s'appelle ActivityPub et ce qu'on appelle la Fediverse. Tous les protocoles techniques qui sont en dessous, mais qui sont pas Mastodon. Et donc, c'est cool parce que ça permet qu'il y ait à nouveau une diversité, y compris dans la façon dont on utilise le logiciel, la façon dont on échange les messages, etc. Mais ça met à la tête d'une vraie responsabilité. Et aujourd'hui, Eugène, il a une vraie responsabilité, notamment sur le respect du RGPD, sur la protection des données personnelles, parce qu'il y a des fonctions de Mastodon qui sont un petit peu borderline, sur le fait de réfléchir à ce que ça signifie d'avoir des instances et pourquoi on met en œuvre telle ou telle fonction et pourquoi on le met pas en œuvre. Par exemple, ils ont fait le choix historiquement de pas avoir de moteur de recherche complet. Donc il n'y a pas de système où on peut chercher tous les messages sur Mastodon. Et c'est fait exprès par Eugène qui a dit non, on veut pas de ça parce qu'en fait ça aide énormément le harcèlement. C'est peut-être un peu vrai, Mais il a sorti ça de sa tête, si vous voulez. Il est tout seul à avoir réfléchi ce truc-là. Et même s'il y a plein de gens qui y ont réfléchi, c'est plein, c'est une toute petite nébuleuse de geeks et de gens autour de ces geeks qu'on dit, ouais, ce serait peut-être une bonne idée. Alors, ça part d'un bon sentiment de prendre soin, et ça, je trouve ça super. Prendre soin des communautés, des usagers, des utilisateurs et utilisatrices du service. Mais je pense qu'il faut réouvrir le dossier régulièrement pour se reposer à la question de c'est quoi les fonctions qu'on veut garder et qu'on veut pas garder. Et là-dessus, ouais, il y a des vraies questions.
Peut-être faudrait poser la question.
J'ai juste précisé parce qu'on a eu des remarques d'évoquer d'autres logiciels que Mastodon. En 2023, on fera d'autres sujets sur le fait divers, les logiciels. Là, c'est vraiment une première émission centrée sur Mastodon. Il faut rappeler qu'on est une émission de radio bande FM aussi, et donc il y a des gens qui découvrent totalement ça. Et donc, on parle déjà avant tout à ces gens-là. Mais promis, en 2023, on parlera du fait divers et de tous les logiciels du fait divers. Vas-y, Cécile.
Oui, j'allais dire en souriant, peut-être il faudrait parler avec des gens qui ont fait l'expérimentation du harcèlement, de ce qui harcèle ou ce qui harcèle pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut, par exemple, cette idée de limiter les RT en commentaires, en fait, c'est hyper dommage parce que il y a plein de moments où t'as envie de, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup utilisé pour soutenir, pour reprendre le message de quelqu'un en disant, et en plus, il y a ça et ça pour ajouter, pour faire écho.
Pour soutenir.
En mettant tes propres mots.
En mettant tes propres mots, c'est mieux que de le renvoyer comme ça. Et c'est hyper frustrant, ça, de pas pouvoir le faire. Je trouve que c'est vraiment très dommage et ça n'enlèvera absolument pas la possibilité de harcèlement. Après, c'est vrai que le mood général ressemble quand même un peu à Twitter du début. Il faut dire aussi ça, hein. C'est que Twitter en 2010 c'était pas du tout un lieu de harcèlement, pas du tout du tout, alors que moi j'étais déjà une personnalité publique assez connue, c'était vraiment hyper sympa l'ambiance et j'ai pourtant bloqué le premier compte sur Mastodon avant-hier.
Ah, voilà. Alors, le temps passe vite et je sais qu'en plus vous avez rendez-vous après. Je voudrais quand même qu'on aborde un petit peu quand même la modération et qu'ensuite on aborde des conseils pratiques pour les gens qui s'y mettent de façon vraiment très très simple. Donc sur la modération, j'allais t'appeler Vincent. C'est son pseudo. Benjamin, donc toi tu co-gères l'instance mammotte.fr de la Quadrature du Net qui n'accepte plus de compte aujourd'hui. Tu as créé récemment avec un collègue Thibaut piaille.fr qui est une nouvelle instance qui a, je crois, regardé hier 12 ou 13 000 comptes. Et donc, une partie du travail, au-delà de l'aspect technique, c'est la gestion de la modération. Comment ça se passe, la gestion de la modération, sur une instance Mastodon?
Alors, a priori, on est comme beaucoup d'instances, on est parti sur ce qu'on appelle la modération a posteriori. On va pas modérer les messages pour les diffuser si on veut. C'est les messages sont diffusés et des gens peuvent nous les signaler. Donc, n'importe qui, usager local ou usager d'un autre serveur, peut nous dire, ouais, ce message de ton utilisateur ou ce message d'un utilisateur d'un autre serveur, dans ce cas-là, c'est un usager de chez nous qui nous le dit, pose problème. Et nous, on a défini un certain nombre de règles. Donc, quand vous inscrivez sur le site, il vous donne les règles en disant, attention, les messages faisant l'apologie de la haine, racisme, antisémitisme, homophobie, etc. sont interdits. La pédopornographie est interdite parce qu'en fait,
c'est la loi.
C'est la loi en France et que même si c'est dessiné, c'est la loi en France. Et on agira immédiatement, etc. etc. Il y a plusieurs règles. Et notamment, on continue pas à répondre à quelqu'un qui vous a demandé d'arrêter de lui répondre. Et ça, c'est une règle auquel on va s'attacher parce qu'en fait, ça rentre dans le harcèlement. Le harcèlement est explicitement cité comme étant interdit, etc. Sauf que nous, derrière, il faut qu'on prenne des décisions. Quand on nous remonte un message en disant « Ouais, règle numéro 11, il a harcelé un autre usager », il faut qu'on aille voir, il faut qu'on décide. Et c'est une responsabilité, l'air de rien. Et surtout, la décision, on a une granularité très fine. On peut choisir de écrire l'usager criminel en disant « Bonjour, ce serait bien que vous enleviez ce message parce qu'il est, il respecte pas la règle. » On peut ne rien faire en disant « Ça respecte quand même la règle à nos yeux. » On peut dire à l'usager « Ok, tes 5 derniers messages, c'est que des bordes d'insultes envers des inconnus. Tu sais quoi, tu sautes en fait, parce qu'on veut pas de toi dans notre bar, parce qu'il y a des règles et que tu les as pas respectées et que c'est pas la première fois. » Il y a beaucoup de choses possibles et on peut même faire un truc intermédiaire qui est ce qu'on appelle le silencier ou le limité, qui est que en gros il pourra continuer cet usager à utiliser le service, mais il apparaîtra pas dans la place publique, ni locale et la place publique locale. Et donc ça veut dire qu'on le verra plus trop, donc ça lui enlève une espèce d'amplificateur que Mastodon peut autoriser. Donc il y a vraiment plein de petites possibilités de réponses, quoi.
Et là, actuellement, vous êtes combien sur PI à faire ce travail? Et ça représente combien de signalements par jour?
Alors là, on en est par jour. Ça fait 15 jours qu'on existe. On en est au 400e signalement, 430e.
Ah oui.
Alors, faut voir que c'est nouveau, hein. Sur Mammotte, on en a eu ça, mais en 3 ans. Là, sur PI, on en a eu beaucoup les premiers jours parce qu'en fait, les premiers jours, tout le monde un peu prend ses marques. On a plein d'utilisateurs et utilisatrices qui arrivent, qui découvrent le truc, qui font n'importe quoi. Bon, on leur dit, non, mais tu sais quoi, c'est pas la règle. Ah, bon, désolé. Puis il y en a, c'est pas la règle. Ouais, va te faire foutre. Bon, bah, toi, tu sautes. C'est très clair, hein. Enfin, genre, au bout d'un moment, c'est oui, il y a les portes de château, mais enfin, t'es rentré par notre porte. Si tu veux faire ces conneries-là, mais tu sais quoi, va, trouve-toi une autre porte. Et c'est pas de la censure, c'est juste, il y a plein de portes. T'es venu chez nous, t'as coché comme quoi t'allais pas harceler les gens ou pas insulter les gens ou pas avoir des propos racistes. Bah tu sais quoi, t'as pas respecté les règles, bah c'est tout, tu déménages quoi. Et c'est la vie. Mais voilà, on en a fait 430 en 2 semaines. On est 4 pour l'instant à gérer ça, 3 très actifs. Ça va bien parce que c'est la règle de Paoli quand on dit de 80-20. 80% des cas sont très faciles. C'est genre quelqu'un, on comprend rien de pourquoi il a été signalé, on n'a même pas la raison, bon, ce signalement ignoré. Quelqu'un genre ouais, insulte, racisme, machin, ok c'est facile, porn, toc, tu sautes. Et puis entre deux, on a 20% de cas qui sont un petit peu plus problématiques. Et là, c'est super comme intéressant. Je trouve ça super intéressant comme sujet parce qu'en fait, on se pose vraiment la question de quelle place publique on veut construire. Et là, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte, c'est nos usagers et nos utilisateurs et utilisatrices et la couleur qu'on veut donner à l'instance. Parce qu'en fait, on peut choisir de laisser ce type de message apparaître sur la place publique, donc la ligne de la timeline locale, ou pas. Et ça, c'est quelle couleur on donne à l'instance. C'est important parce que ça fait que ça va donner la réputation de PI.fr. Et donc, est-ce que c'est une instance surtout de geek, de qui est généraliste, où les gens sont plutôt sympas? C'est vachement important. Et on a la deuxième action qui est-ce qu'on veut protéger les utilisateurs et utilisatrices de personnes visiblement néfastes? Et là, il y a des choix à faire qui sont pas évidents. Et par défaut, dans le doute, sur PI, on a plutôt tendance à dire, dans le doute, on va plutôt laisser les gens bloquer eux-mêmes. Parce que c'est très facile sur PI, comme sur Twitter, comme sur toutes les autres instances Mastodon, la plupart du temps, de bloquer des utilisateurs. Donc si quelqu'un vous embête, vous faites bloquer, il voit plus vos messages, il peut plus vous écrire. Après, le truc, c'est que si quelqu'un embête une première personne qui la bloque, une deuxième personne qui la bloque, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte que cette personne n'arrête pas de harceler les hommes ou les femmes de l'instance, nous, on va dire, bah non, en fait, c'est pas possible. Donc, c'est là où il y a des seuils, c'est très subtil, et ces 20%, ils sont un peu compliqués. Et je trouve ça intéressant. Et c'est là où on se rend compte d'une chose, on est en train d'essayer de rentrer en discussion avec d'autres administrateurs et administratrices d'instances pour leur dire, discutons entre nous sur les équipes de modération pour parler de nos pratiques et publier des trucs sur ces pratiques. Peut-être aussi améliorer les outils de modération parce qu'ils sont un peu péraves. Mastodon est super, mais alors, les outils de modération, ils sont un peu roots, quoi. Donc ça nous facilite pas la tâche, etc. Donc c'est, voilà, on essaie de provoquer la prise de conscience de la nécessité de gouvernance à plusieurs niveaux des instances pour faire un des endroits qui soient un peu sains et sympas à venir papoter quoi.
Alors je précise juste qu'on a consacré un sujet sur la modération, alors c'était orienté LinuxFR et Framapiaf de mémoire, c'était de l'émission 104 de Libre à vous, donc libreavoue.org/104. Alors je regarde le temps parce qu'il file très très vite, et donc pour être sûr de traiter ce point tout de suite, dans les temps on va le faire tout de suite. Les gens qui nous écoutent se disent là aujourd'hui, ok, vous m'avez convaincu, je veux donner une chance à Mastodon, concrètement comment on fait les étapes? Et je précise qu'on va le faire de façon la plus simple possible. C'est pas avec effectivement le fait de choisir les instances, etc. Comment on fait concrètement? Quelle application on installe sur son téléphone? Par exemple, toi, je crois que c'est sur iOS de mémoire.
Oui, moi
Cécile.
J'ai un.
Et donc comment ça. On fait concrètement? On
va installer l'application. Moi, d'abord, j'ai mis l'application Mastodon de base que j'ai trouvée, et ça, il y avait plein de trucs qui me manquaient, et donc j'ai posé la question et on m'a donné des conseils, et du coup, j'ai adopté l'appli qui s'appelle MetaText. Et j'ai fait un message parce qu'il y avait le nom du mec qui l'a créé pour le remercier. Et effectivement, je suis, à part qu'on peut pas enregistrer les brouillons, c'est le truc qui me manque. Sinon, franchement, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis pas une super douée. Hein. J'ai besoin que ce soit assez intuitif. Et en vrai, ça ressemble à Twitter, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est aussi facile. C'est aussi facile de faire des threads, c'est-à-dire des messages attachés pour raconter une histoire. Donc voilà. Et on m'a dit que sur...
Sur Android,
c'est Fedilab ou Tusky, qui sont les plus faciles pour les gens qui viennent de Twitter et qui ont envie de retrouver leur petit.
Donc première étape, on installe. Alors il y a toujours l'application web aussi, la version web évidemment.
Voilà, si on est sur mobile, on peut aller donc installer sur iOS, donc sur les iPhones, MetaText. Typiquement sur Android, Tusky ou Fedilab. Il y a aussi l'appli qui s'appelle Mastodon tout simplement, qui est l'appli officielle.
Ouais.
Mais les trois, voilà, franchement, c'est tester, jouer, c'est pas trop difficile. Ou aller sur le site de l'instance sur lequel vous voulez vous créer un compte. Et dans tous les cas, au moment où vous allez lancer l'appli ou aller sur le site web, derrière, vous allez dire « je veux créer un compte » qui va être votre identité. Vous allez choisir un pseudo. Donc par exemple, moi c'est Benjamin sur pi.fr. Vous entrez votre mail, un mot de passe, qui vous envoie un mail pour confirmer votre adresse mail. Vous cliquez et pouf, vous avez un compte. Donc, sachant que c'est à ce moment-là qu'il faut choisir l'instance.
Alors justement, simplifions les choses pour les gens qui nous écoutent. Quelle instance on leur conseille?
Moi, je vais voter pour ma chapelle. Moi, je vous conseille d'aller sur pi.fr pour des raisons toutes simples. C'est que c'est une instance majoritairement francophone dont la maintenance est assurée par des Français dont c'est le métier, des gens du monde de la gérance des serveurs. C'est une instance qui est partie pour être sur le temps long, parce que c'est important aussi de se dire, est-ce que ces gens ont l'intention de garder ce truc-là des années? A priori, c'est notre intention. Qu'il y a une modération qui est relativement transparente pour l'instant, on essaie d'améliorer là-dessus, où les règles sont connues, pas de racisme, pas de harcèlement, les trucs classiques, qui vont certes au-delà de ce que le droit français prévoit, mais enfin, c'est comme dans tous les bars, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, le tenancier, si vous faites n'importe quoi, il vous fout dehors, et personne n'a rien à dire en général dans le bar, ils sont plutôt contents. Voilà. Et donc, moi, je vous recommande d'aller sur piaie.fr, piaie.fr. Là, vous pouvez cliquer sur « Créer un compte ». Si vous êtes sur l'appli mobile, vous tapez piaie.fr et il vous dit « Créer un compte », vous mettez votre login mot de passe, pareil, et ça vous obtenir un compte sur cette instance que je vous recommande. Et après, si vraiment vous êtes un peu plus geek, bah, vous savez quoi, vous fouillez sur les réseaux internet, les moteurs de recherche favoris, vous cherchez d'autres instances. Il y a éventuellement joinmastodon.org où vous pouvez trouver des listes d'instances plus thématiques selon si vous êtes plutôt... certaines communautés, dans certaines langues, etc., où vous pouvez aller voir aussi.
Ok. Je précise qu'on a mis tous ces liens sur le site de l'émission, sur libreavoue.org, et qu'on encourage les gens, effectivement, qui voudraient découvrir, aller sur piaie.fr, parce qu'on a totalement, effectivement, confiance en l'équipe d'admin. D'ailleurs, le meilleur prof, c'est que tu es là dans l'émission. Alors, je sais que vous avez un rendez-vous après, donc on va passer directement à la dernière question, parce que si la question perspective, sinon, on prendrait un peu de temps. En deux minutes, chacun et chacune, quels sont les éléments que vous voudriez faire passer essentiels aux personnes qui nous écoutent? Qui veut commencer?
Sur le sujet.
Benjamin.
Bah, c'est comme sur le vrai monde. Donc, ayez pas peur. Et puis, si ça va pas, ayez pas peur à demander de l'aide. Venez discuter avec nous, c'est super. Moi, j'ai découvert déjà sur Mastodon récemment des super artisans, des gens qui écrivent des bouquins, des gens qui font du jeu de rôle, enfin, des trucs, j'adore. Y compris les gens qui développent des logiciels que j'aime beaucoup. On a même découvert des nouveaux logiciels, c'est mon truc, qui sont super. Donc, venez, il y a plein de gens super. Voilà, n'hésitez pas à appeler à l'aide s'il y a des trucs qui vous arrivent qui sont pas cool. Parce qu'en fait, c'est vraiment une communauté qui a envie qu'on puisse rediscuter comme au début de Twitter. Voilà, c'est viendez quoi.
Ok.
C'est cool.
Cécile.
Moi, je trouve que c'est quand même une fenêtre sur le monde, ce réseau. Alors, j'espère qu'il va se développer. En fait, moi, j'aimerais bien qu'il prenne la place de Twitter. Mais si j'ai bien compris, Elon Musk veut transformer Twitter en banque. On aura un compte, on pourra acheter des trucs, vendre des trucs. Donc, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, et c'est moins sympa. J'ai aussi un compte sur Instagram. Une publication sur deux, c'est une pub. Et puis, d'ailleurs, quand c'est des publications par des gens, on sait pas s'ils sont payés ou pas. Là, pour le coup, l'avantage, c'est que c'est effectivement, c'est comme la vie. C'est plutôt libre, ouvert. Il y a des gens qui font des messages pour identifier des objets bizarres, enfin, et il y a des super scientifiques super solides sur des choses. Il y a Mathilde Larère qui fait des threads pour raconter un événement historique, enfin voilà, c'est moi j'aime, ça satisfait ma curiosité, ça satisfait aussi ma possibilité de communiquer directement avec les gens, d'échanger et puis de recevoir des infos et de découvrir des choses que j'aurais pas eu l'idée de chercher. Et ça, ça me met sous les yeux des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc, c'est quand on est curieux, c'est chouette.
Écoutez, merci. Je vais en profiter, enfin, juste pour, parce que ça a été signalé tout à l'heure sur le salon web, qu'il y a une grosse réactivité des personnes sur Mastodon qui étaient déjà présentes pour produire de la documentation, beaucoup de tutoriels, etc., d'accueil, etc. Et également, je voudrais féliciter tous les admins de toutes les instances qui existaient déjà et notamment saluer en particulier Quentin Gibault qui gère l'instance de l'April. On a dû fermer les inscriptions parce que tout simplement on était un peu dépassés, mais toutes ces personnes ont été super réactives pour gérer l'arrivée en masse de milliers de comptes. Qui était absolument pas prévu parce qu'on n'avait pas anticipé effectivement cette chose-là. Donc vraiment un grand merci à toutes ces personnes et aussi également un grand merci à nos deux invités parce que c'est un très grand plaisir de vous avoir avec deux profils différents. Voilà, c'était vraiment super.
Merci.
Et je le répète, en 2023, on consacrera plusieurs émissions à ce qu'on appelle le fait divers, qui est encore au-dessus de Mastodon avec plein de logiciels libres qui existent, qui communiquent entre eux. Mais ça sera en 2023, c'est prévu. Donc c'était nos invités Cécile Duflo et Benjamin Sontag. Le sujet, donc, c'était Mastodon. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Nous sommes de retour le 3 octobre 2023. Donc cette émission a été diffusée il y a à peu près un an. Donc Cécile Duflo était active sur Mastodon depuis simplement quelques jours. Bah, Cécile est toujours sur Mastodon. Elle utilise toujours MetaText. Dans le cadre de l'interview, à un moment, Benjamin Sontag a parlé de PI.fr qui avait été créé quelques jours avant l'émission et qui peut-être un jour se constituerait en association. Bah, c'est le cas depuis quelques semaines. PI.fr est devenu une association. Si vous avez été attentive à l'émission, vous vous êtes dit j'ai déjà entendu la pause musicale et effectivement un fantôme dans la maison d'Odysseus a été diffusé en double, c'est une erreur de ma part de programmation, mais bon, vous avez pu profiter de cette chanson à deux reprises, voilà. Et donc depuis l'émission de novembre 2022, l'intérêt pour Mastodon n'a cessé d'augmenter. Et d'ailleurs, une nouvelle version de Mastodon, la version 4.2, vient d'être publiée fin septembre 2023 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont notamment le mécanisme de recherche, les choix de confidentialité, vie privée et bien d'autres. Le lien d'un texte en français et en anglais qui donne les détails est disponible sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavoue.org/185.